Laisse-le finir sa séquence. Ça va aller. Tu vas voir ton moment.
Je
vois ça comme des petits chiens dans les voitures là. Ou les dames qui font Hawaï là.
Tu t'emballes. Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode, le dernier 2024 du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur, un plaisir de vous recevoir et tout simplement de vous avoir accueilli tous les mardis pour parler évidemment du football. On va évidemment continuer en 2025 avec encore plus de surprises, mais on est surtout ici pour fêter la dernière. C'est un petit peu l'épisode de Noël, c'est un peu le bon moment qu'on passe ensemble. La petite Madeleine de Proust, le petit chocolat chaud et la petite guimauve, c'est là. Et évidemment qu'on va faire un bilan complet de la première partie de saison avec énormément de choses à vous faire gagner, surtout un énorme cadeau. Restez bien attentifs parce que à la fin de l'émission, on a quelque chose à vous offrir à vous. C'est important. Restez jusqu'à la fin. On va commencer évidemment par dire bonjour à nos chroniqueurs. Bonjour mon Xavier, comment ça va?
Ça va pas mal, toi, ça fait aujourd'hui?
Très bien. Je suis très content de retrouver ma petite team des trois mousquetaires là ici. Quentin, ça va mon ami?
Ça va très bien, ouais.
Très bien.
Ça fait plaisir d'être là et surtout, restez bien à la fin parce que c'est vraiment un teasing. Le cadeau. C'est du lourd.
C'est du lourd.
C'est du lourd.
C'est du très très lourd, tu effectivement.
Tu vas au ski ou c'est pas moi?
Frérot, c'est l'hiver, hein. Moi j'ai froid, moi je suis pas fait pour cette température froide, hein. C'est pas pour moi.
Voilà, fais attention parce que là par contre si tu vas dehors avec ça, le polar alors que t'as chaud sur le studio, je pense que ça va faire un mélange chaud-froid qui n'est pas bon pour ta température. Mais nous sommes pas ici évidemment dans Football Time Santé, Nutrition, c'était
ouais,
la semaine dernière.
En ce moment c'est fort hein, les conseils en nutrition, santé.
Ouais c'est pas mal hein.
Ouais.
Bon, on change de vie, voilà.
Ouais, voilà.
Décider voilà. D'être un peu complet. Comment ça va mon Thomas?
Très bien. Bah moi si j'ai un conseil financier à vous donner, ne devenez jamais indépendant.
Eh oui, malheureusement on est un peu attaqué de toutes parts. Quand on est indépendant, tu as bien raison. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end?
Alors ce week-end j'ai fait Reims-Monaco.
Reims-Monaco.
Ouais. Une purge.
Ouais, bah ouais.
Ah non mais c'était horrible.
0-0 non?
0-0 et la journée d'avant j'avais fait OCR-PSG.
Ouais.
C'était aussi 0-0 donc je me suis fait 2-0, voilà. 2-0-0. D'affilée, mais le match Reims-Monaco, waouh, c'était horrible.
Le froid, la pénombre.
Ouais. Mais non, c'est même pas ça, c'est vraiment le niveau de jeu. Oh, c'est même mieux en Belgique, hein, des fois.
Genre, ouais.
Le 0-0 Berscott standard était plus intéressant que le 0-0.
Ça, faut le faire, quoi.
On va y venir. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses à dire dans cette rencontre, mais on va démarrer comme d'habitude avec l'happening de Thomas. Thomas nous réserve, comme chaque début d'émission, une petite surprise. On va jouer à quoi cette semaine?
Bah, la surprise, elle se cache sous le divan. Donc, je vais me permettre de prendre les trucs, parce que si je les mettais sur table, vous allez le voir. Donc, en gros, vous allez recevoir un puzzle. Vous allez recevoir. On va dire, c'est 9 carrés. Il y a un mot à l'intérieur et il y a 3 joueurs qui se cachent sous ces mots-là. Donc vous avez, on va dire, une trentaine de secondes pour trouver le max de joueurs. Donc il y en a 3. Je vous le donne, vous regardez, vous lisez et ensuite vous me donnez la réponse si vous l'avez.
On va avoir moins de 30 secondes.
Hein. On va essayer de comprendre.
On va essayer de regarder.
On a quoi que ça, on a trouvé un.
Il y a 3 joueurs qui se cachent sous ces mots-là.
D'accord. Alors, je vais commencer. Je lis ce que tu as écrit.
Ouais. Après, les téléspectateurs, ils voient ici les 9 mots, le puzzle, et du coup, ils doivent trouver 3 joueurs qui se cachent sous ces 9 mots.
Alors.
Donc, 3 mots correspondent à 3 joueurs.
Coupe du monde 2022. Jan Vertonghen, Chris Coleman. Ça, c'est pour le premier joueur. Non. Southampton.
Non, c'est pas du tout ça. C'est mélangé. Donc, faut vraiment.
Ah, tout est mélangé.
Donc, faut que tu regardes bien, tu lises bien. Il faut que tu trouves un joueur qui se cache derrière ces mots-là. Donc, ils sont mélangés, ils sont un peu partout. Hein. C'est pas la première ligne, c'est un joueur. La deuxième ligne, c'est un autre joueur. C'est vraiment mélangé.
Ok. Alors, ici, là, comme ça, si je vois Lyon de l'Atlas, Ligue 2, j'ai tendance à dire Sofiane Boufal.
Voilà, ça fait un point pour toi.
On a trouvé des joueurs de championnat belge,
oui,
il y a
c'est
ça.
Championnat belge,
si je vois champion de Belgique, Southampton.
Alderweireld.
Ouais.
Oui, il y en a 2. Bah, il y a un troisième, non?
Alors, Alderweireld, Sofiane Boufal, c'est bon, on a trouvé, il nous en reste un.
Il en reste un.
Alors, il reste, je pense qu'il y a RFC Serein, Chris Coleman.
Youssef Mazis.
Voilà.
Ouais.
T'as vu, c'est pas on y arrive,
hein.
Tu vois.
Ouais, c'est pas si difficile que ça. Hein.
On a même pas besoin de 30.
Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Tu peux rentrer, je suis tranquille. Tu vois, j'ai du petit chocolat chaud.
Ouais. Magnifique. Bah voilà, c'était un jeu rapide, efficace.
Je pensais pas que vous allez le trouver aussi rapidement.
Bah, génial.
Vous avez mis plus de temps à comprendre que trouver le joueur.
On est fort.
C'est vrai. Vous êtes très fort. Et vous êtes encore plus fort parce que vous allez prendre vos petites panquettes. Regardez. La panquette est déjà dans les mains de Xavier. Voilà. Du côté de Thomas, Voilà, on l'apprend. Voilà, on l'apprend. Du côté de Quentin, on s'en fout, c'est très bien. On va passer au donc, au d'accord, pas d'accord, avec trois phrases, comme d'habitude, que nos chroniqueurs vont devoir analyser. Sont-ils d'accord ou pas d'accord avec les phrases que je vais leur donner? Et on démarre tout de suite. Tu en as parlé en préambule avec le Standard de Liège. Le Standard de Liège a été surclassé dans le jeu par la Lanterne Rouge, le Berscott, au kill. Xavier.
D'accord.
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 D'accord. Et d'accord. Et ben voilà. C'est un 3 sur 3. Ça me fait plaisir de vous voir tous réunis autour d'une même cause. Aujourd'hui, ouais. On ouais. dit à quel point le Standard joue mal. C'est ça, Quentin.
Ouais. Ouais, c'est triste. Ça joue vraiment mal quand tu vois aussi peu de pourcents de possession de balle au Berscott. C'est triste à dire, mais je pense que c'est leur seul moyen d'essayer de prendre des points. Ce qu'on a vu quand les co essayent de jouer, ben, ça va pas. Ici, ils essayent de ne pas jouer, ça va, ils arrivent à prendre des points, ils ont failli se qualifier en Coupe de Belgique en refusant le jeu. Ça, j'ai bien peur que ça soit comme ça encore toute la saison, et avec le doute financier qui plane autour de ce club, il y aura rien d'autre, il y aura rien de ouf au mercato pour justement arranger ça. Donc ça va être assez compliqué, et en effet, la qualité de jeu proposée par le Standard, on ne se crée pas d'occasion en fait, c'est ça le problème. C'est tu subis contre le dernier du championnat. C'est triste à dire, mais encore heureux qu'il y avait Polo.
67 millions de dettes sur les deux années précédentes, 22 millions de pertes et de déficits sur l'année civile actuelle. C'est absolument énorme, ça fait moins de 89 millions d'euros, des trous incroyables. Je pense que même à l'époque du Royal Antwerp Football Club, quand ils avaient tellement investi sous Paul Gijsens pour faire remonter le club, ils n'étaient pas arrivés à un trou aussi béant. Ça fait peur.
Ouais, ça fait vraiment peur, mais avant d'argumenter mon choix, je précise que je ne suis absolument pas un anti-standard parce que je vois ça sur les réseaux, ça passe.
Sporting Boy!
Non, rien à voir. Vraiment, moi, je ne juge uniquement que la situation actuelle d'un club, donc je ne suis pas anti-standard, ni anti-Anderlecht, ni anti-Bruges. Je suis complètement neutre. Moi, il y a que Moucron dans mon cœur et je ne déteste personne.
Voilà. Et t'as dit voilà. Thomas peut-être aussi.
Oui, mais on parlait des clubs là.
Donc vas-y. Alors donc voilà. Va sur ton argumentaire. Pourquoi le Standard a été surclassé dans le jeu contre le Berscott selon toi?
Ah mais moi ça me fait même mal au cœur de voir un Standard aussi mauvais face à un Berscott qui était condamné en début de saison. Les 5 premiers matchs pour nous c'était clair et net. Enfin pour tout le monde de toute manière le Berscott allait descendre. Mais franchement le niveau affiché du Berscott c'était vraiment très intéressant parce qu'on parle que le Standard a été mauvais, mais moi je trouve que c'est surtout le Berscott qui a été très bon. Il méritait amplement ce point déjà dans un premier temps, mais surtout les 3 points. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette rencontre, c'est l'interview de Leko après match. Il a osé dire que c'était un résultat logique, que les deux clubs méritaient un point. Pour moi, ça veut juste dire qu'il vit complètement dans le déni parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui méritait les 3 points. C'était le Standard. Et heureusement qu'on avait notre jeune gardien, cher et tendre, Epolo.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un des Football Time Player of the Week. On va voir, évidemment, du côté de Thomas. Mais j'aimerais aussi pointer l'exergue par rapport à ce que tu dis, Thomas, sur l'utilisation de Isaac Price par Ivan Leko. Voilà, l'utilisation pour moi est très mauvaise. On voit un joueur qui a certes des capacités, qui a beaucoup de talent, mais qui ne sait pas être utilisé. C'est quand même aussi un élément de crispation important. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, c'est un élément de crispation en interne, notamment entre Ivan Leko et sa direction. Comment on fait pour régler ce problème? Et est-ce que c'est vraiment ça, le nœud de l'affaire, comme on dit dans le jeu, pour essayer d'avoir un standard un peu plus chatoyant, Xavier?
Moi, je pense que c'est pas le seul problème. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes au standard, mais c'est vrai que son utilisation, pour le voir en équipe nationale, il est performant avec son équipe nationale, même si ça reste un petit pays, l'Irlande du Nord. Mais je pense qu'il manque vraiment au milieu de terrain, un vrai joueur d'expérience pour pouvoir justement guider les joueurs comme Price ou autre. Parce que j'ai l'impression que sur le terrain, il a des qualités, mais il est un peu perdu, il fait souvent les mauvais choix, il ne sait pas forcément trop quoi faire. Donc je pense que si tu avais quelqu'un pour le guider au milieu de terrain, ça pourrait vraiment essayer d'apporter plus pour lui, et peut-être le mettre un peu plus en avant. Parce que là, pour le moment, c'est un petit peu... On le prend toujours à partie, puisque, bah, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément d'accord avec son utilisation, la direction, l'entraîneur n'a pas forcément envie de le faire jouer, on lui demande de le faire jouer et tout ça. Donc il y a beaucoup de soucis en interne à propos de lui, alors que je pense il doit avoir des qualités, parce que sinon il serait pas là et
Non, ils doivent le vendre.
Ils doivent le vendre, ouais, il a pas l'étoffe pour jouer au Standard, il a pas l'étoffe pour avoir la pression d'un club, parce que jouer au Standard, il faut quand même avoir des épaules pour. Et désolé, pour moi, il a clairement pas les épaules pour jouer au Standard. Et
donc Isaac Price n'a pas les épaules pour jouer au Standard,
non,
selon toi? Il a
non.
pas le niveau.
Ben, le niveau, honnêtement, de ce que je vois, clairement pas. Mais quand t'es milieu de terrain au Standard de Liège, que tu joues dans un rôle de 8, maintenant même plus 10, pour essayer justement, Je pense que Leko, clairement, il le fait jouer plus haut pour qu'il arrive à avoir ce déclic, à avoir ses passes cibles. Que j'en reviendrai dans ma patte de l'expert, mais quand tu sais que le joueur, il a 15 titularisations et 3 montées au jeu en championnat belge et qu'il a 0 passes décisives et 0 goal, alors qu'il y a quand même un buteur devant lui qui s'appelle Andy Zekiri qui sait terminer des actions, franchement, je trouve qu'il a pas les, c'est pas le même contexte que jouer en équipe nationale de l'Irlande du Nord. Et clairement, il a pas les... Et je pense qu'avec la pression qu'il y a le club, la pression qu'il y a en interne, savoir aussi répondre présent pour des supporters, on a toujours vu qu'au standard, tu dois avoir un milieu de terrain, tu dois avoir ce joueur charismatique, tu vois. Mmh. Ce joueur qui arrive à faire une différence. Ce joueur qui sait jouer avec cette pression. Et clairement, okay. Isaac Price, il est perdu. Mmh. Quand tu vois qu'à chaque fois qu'il arrive au grand rectangle, à chaque fois qu'il veut frapper, soit il frappe mal, soit il fait des passes au gardien. Non, franchement, pour moi, je trouve qu'il doit être vendu. Et justement, il a une plus-value marchande parce qu'il est jeune. Le standard doit en profiter et doit mettre du 109. Ils doivent arrêter de s'efforcer à le titulariser, à s'efforcer à essayer de qu'il arrive à performer. Tu profites du mercato hivernal, tu le vends et tu mets un autre joueur pour lui donner sa chance, qu'il faut pas continuer avec lui.
Pour moi, c'est tout simplement le système de jeu qui n'est pas adapté à ce joueur-là, parce qu'on joue avec des pistons, on met vraiment l'accent sur les ailes, on met aussi l'accent sur les deux attaquants de pointe, parce que t'as deux pointures dans ce domaine-là, t'as quand même un Zekiri et Kertajensa, les noms, c'est vraiment des gros noms, donc tu as vraiment cette pression sur ces deux attaquants-là, et après tu joues avec un trio défensif où ton système de jeu est quand même plutôt très défensif, donc il n'y a pas de création de jeu, il n'y a pas de création d'occasion, donc ce joueur-là, c'est un joueur créatif et il n'a pas l'occasion de s'exprimer en tant que joueur créatif. On a le même problème du côté Courtrai avec un Kadri. On connaît les qualités de Kadri, il est très bon, mais dans un système avec 3 défenseurs et des pistons, c'est pas des joueurs qui sont adaptés pour ce type de jeu.
Les supporters se sont également plaints des performances de plus en plus déclinantes de Denis et Kertajensa. Qu'en penses-tu?
En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on joue avec 2 attaquants, donc en début de saison, je pense qu'on avait posé la question, est-ce que Zekiri et Kertajensa sont complémentaires? On a tous dit oui, je pense, au départ. Au départ, on a tous dit oui parce que voilà, c'est deux attaquants de bonne qualité. Mais quand on regarde maintenant avec le recul, je pense que c'est pas forcément deux attaquants qui sont complémentaires. Et on
donc voit... ils ne vont pas ensemble, selon toi?
Pour moi, non. Zekiri est nettement au-dessus de Kertajensa, aussi bien dans le jeu que dans l'efficacité et dans la présence dans le rectangle. Et Kertajensa, on le voit quasiment pas. Et Zekiri, on le voit. C'est ça que c'est ça la différence.
C'est à cause du système. Hein. On en revient toujours au même souci.
Et Kertajensa jouait comme ça à l'Union,
pour moi,
donc c'est pas un problème.
À partir du moment où t'as une équipe qui joue un peu plus haut. Le problème là, au final, au soir, c'est que t'as tes 3 défensifs derrière, tu récupères, tu mets un long ballon et les deux attaquants, débrouille-toi. Mais y a c'est pas ça qui fait que je pense que ça va pas. Si t'as un peu plus de construction, que t'essayes de vraiment construire une action, je pense qu'il pourrait être.
Mais il n'y a pas d'attaquant, rapide dans ces deux. Pour moi, Zekiri n'est pas rapide et Kertajensa n'est pas rapide. Donc si tu mets deux attaquants qui ont la même vitesse, déjà ça, c'est pas complémentaire.
Et puis vous avez oublié, selon moi, un élément important dans votre analyse, c'est l'absence d'Ilaï Camara. Pourquoi? Parce que Ilaï Camara est très clairement le meilleur joueur du Standard de Liège actuellement. D'accord. Et son absence est vraiment, vraiment préjudiciable parce que derrière, les latéraux, on sent que, un, d'abord, Boli Bolingoli, on connaît ses qualités, mais il manque clairement de rythme. Et de l'autre, Fossé, c'est un bon joueur, mais c'est ce que moi j'appelle un 6 sur 10. Il fera toujours le boulot, il fera toujours des pirouettes, il fera toujours des cabrioles, il sera toujours dans les contacts, il sera toujours dans les tacles, il sera toujours dans les centres. Mais c'est pas un joueur qui va t'exploser un match, quoi.
C'est pas du tout le même profil, en fait. Ilaï Camara, c'est le seul joueur du Standard qui est créatif. C'est le seul joueur du Standard qui arrive en un contre un, peut te faire une différence. C'est le seul joueur du Standard pour lequel tu vas au stade et tu te dis, lui, il peut me faire vibrer. Lui, je vais au stade pour le voir parce que lui, je sais qu'il peut me faire ce petit truc qui va faire la différence. Il peut éliminer cet homme en un contre un. Et c'est triste à dire que c'est même pas un attaquant gauche. C'est un latéral gauche. C'est un piston gauche. Tu te dis, le seul élément de ton équipe, c'est celui-là. Alors que de base, dans l'histoire du football, dites-moi si je me trompe, c'est le numéro 10 normalement. C'est le numéro 10 qui est censé te faire cette différence qu'ils ont pas. Donc quand tu te dis c'est que Ilaï Camara qui peut le faire et que là il est absent, clairement c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a rien de plus à dire.
C'est le système de jeu, tu joues avec des pistons. À l'Union, je suis désolé, c'est pareil. Le joueur le plus créatif, c'est un Loïc Lapoussin. Il joue à la même position que Ilaï Camara.
T'as quand même des Bouffal ou quoi qui peuvent être créatifs. Aitelage qui est monté au jeu, par exemple, c'était en Coupe d'Europe. Aitelage, c'est un joueur créatif qui est monté au jeu, mais qui est plus haut.
Me sors pas LH parce que franchement.
Non, mais c'est un joueur créatif.
Oui,
c'est un joueur qui sait faire une différence. C'est un contraire, on l'a vu en Coupe d'Europe.
Mais sur papier, c'est un joueur créatif. Mais est-ce qu'il a déjà été créatif cette saison, si ce n'est la passe décisive contre l'OGC Nice. Non,
non,
ça, c'est non
mais c'est un joueur
exemple,
qui... non, mais justement, c'est un joueur qui peut faire une différence. C'est un joueur créatif. Pour moi, c'est un joueur où tu peux arriver et tu te dis en un contre un, le gars peut faire la différence, ça soit un geste technique, un dribble et tout. Oui, au standard, fait... même sur le banc, t'en as pas.
Ça fait trop.
Dis-moi, même si tu changes ton dispositif au standard, t'as acquis.
Price, c'est un joueur créatif de base. Hein.
Ah, tu vois Price en un contre un faire une différence.
C'est un joueur créatif qui pourrait être bon. Tu le vois bien avec l'Irlande du Nord.
Mais ici, tu fais, c'est pas du tout la même chose.
Mais il est créatif. Tu vois quand même qu'il sait marquer des buts, qu'il sait faire donner des passes décisives. C'est pas ça le problème. Là, tu me donnes l'exemple de Aitelaj, je ferais ça fait 3 ans.
Mais c'est un joueur qui en a contraint, c'est faire une différence. C'est ça pour moi, un joueur créatif.
Bah,
c'est un joueur
je l'ai qui pas sait encore
faire,
vu en
qui sait faire. Bah, t'as pas regardé le match de Coupe d'Europe alors.
Mais c'est le seul match que tu me
fais. Oui, mais c'est vrai, il est pas titulaire, il a beaucoup moins de temps de jeu.
Il était titulaire en début de saison, c'était ça le problème du côté de l'Union. Il était pas créatif, il apportait rien.
Et ici, tu mets justement Price dans ce rôle plus offensif pour qu'il soit créatif, il l'est pas.
Si Aitelaj n'est pas titulaire aujourd'hui et que l'Union marche très bien, c'est pourquoi? Parce que Aitelaj ne joue pas. Mais non, Aitelaj a joué en début de saison, il ne jouait pas bien l'Union, depuis qu'il ne joue plus, mm-hmm. L'Union joue très bien. Ça fait 11 matchs qui sont...
Oui, mais c'est pour revenir, c'est un profil qui, lui, sait de faire une différence. Price, pour moi, je suis désolé, il n'arrivera pas à me faire une différence. Tu mets Price en un contre un avec un défenseur, il n'arrive pas à te faire la différence. Hein.
Bon, sur le débat, Aitelaj, on est vraiment pas
d'accord. C'est le retour du Kylian Thomas Show, c'est tout ce qu'on adore. Évidemment, ça fait plaisir. Mais c'est bien que vous ayez ce débat, effectivement, parce que Xavier voulait d'ailleurs intervenir. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre actuellement, notamment au niveau du jeu.
Ouais, clairement. Puis moi, je trouve que c'est surtout certains joueurs qui prennent pas forcément leurs responsabilités, parce qu'on a besoin, ils ont besoin d'être créatifs. Ok, Camara est fort créatif, mais il y a une action typiquement ce week-end où Fossé, il est dans une action, il est face avec son défenseur. Au lieu d'essayer, il est au grand rectangle en plus, donc au lieu d'essayer de accrocher ou tenter sa frappe, il essaye de mettre un centre. Je crois que c'est Lorenz au milieu, au pas de penalty. Et cela, si tu vois un joueur qui est en confiance. Il prend ses responsabilités, il essaye d'accrocher, il essaye une frappe. À cette position-là du terrain, tu peux pas me dire, ok, comme ça, fais la passe, comme ça, si on rate, c'est pas de ma faute. Et c'est ça aussi peut-être qui manque au standard, des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et Price, je revois Thomas, c'est un joueur créatif, mais le souci, tu peux pas être. Pour être créatif, tu as besoin de joueurs autour de toi. Il récupère le ballon, il y a personne. C'est
donc,
le désert.
Pour vous, le problème de Price, c'est que c'est le dispositif qui est pas bon.
Donc tu mets un Aitelaj à la place de Price.
Je te demande si pour toi le problème de que Price il est juste pas bon parce que c'est pas le bon dispositif.
Pour moi oui.
Donc le système de jeu ne lui convient absolument
donc,
pas.
Donc tu changerais le dispositif du standard juste pour que espérer que Price soit meilleur.
Mais je ne dis pas qu'il faut changer le dispositif.
Alors tu le vends alors.
Mais oui, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas le vendre. Moi je te dis, on parle du niveau de Price. Pour moi c'est juste le système de jeu qui ne convient pas.
Et tu
ferais
jouer dans quoi comme dispositif?
Bah dans un 4-3 tout simplement.
Alors ça c'est pas possible parce que d'ailleurs.
Mais je te parle de manière générale.
On a payé les conséquences. Il va être rappelé par son club d'Amarby. Il y aura plus d'ailier véritablement dans l'équipe. Et le standard, bien on sûr. Le sait, n'a absolument pas d'argent. Ce qu'on me dit, c'est, entre parenthèses, on va essayer d'être créatif. Voilà, dans le mercato, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais il n'y aura pas d'ailier capable, en tout cas, de jouer sur ses côtés. Donc Ivan Leko n'est pas prêt de changer son 3-5-2. Dans ces considérations-là, le standard de Liège ne peut pas faire mieux qu'une place dans le ventre mou. On est d'accord.
Donc, pour le coup, il faut le vendre. Et ça, c'est le seul point avec où je suis d'accord avec Quentin. Il faut le vendre dans ce cas-là.
Faut vendre qui?
Si on peut, après, si on ne peut pas faut l'utiliser sous son
meilleur
niveau, autant le vendre. Je suis d'accord.
Après, il a joué en 8, il a joué en 10, il a joué un peu à toutes les positions au standard. Ça a arrêté.
Bon, après le côté un peu morose du standard, je vais vous proposer une autre phrase, messieurs. Reprenez vos pancartes. On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus réjouissant. On va parler d'une des équipes qui, selon moi, est vraiment un coup de cœur cette saison. Voilà. J'avais envie de parler de mon coup de cœur, c'est le FC Veendendor. Voilà, le FC Veendendor qui, avec très peu de moyens, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, la phrase est la suivante. Le FC Veendendor de Vincent Evrard propose l'un des trois meilleurs footballs de Belgique. D'accord ou pas d'accord, vous avez le temps de réfléchir. Évidemment, les trois meilleurs footballs de Belgique, ça veut dire qu'on élimine forcément des clubs du top et donc du top 6. Xavier.
Dans ce cas-là, si t'en élimines quelques-uns, top 3, ouais. Tu m'aurais dit top 1, je t'aurais dit pas d'accord, mais top 3, pourquoi pas.
L'un des plus chatoyants,
ouais,
ça
voilà.
Veut dire
l'un
dans
des,
le top
voilà.
3, voilà. Je suis pas non plus en train de dire qu'il joue comme le club de Bruges, hein. on n'exagère pas. Mais j'adore, je suis fan. Thomas, pas
moi,
d'accord.
Je suis pas d'accord, non.
Tu n'es pas d'accord
non,
avec cette phrase,
d'accord.
Très bien. Et Quentin non plus.
On est d'accord tous les deux.
C'est exceptionnel. Pour une fois que Thomas et Quentin sont d'accord, je vais quand même donner la parole à Xavier. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux à n'être pas d'accord. Donc vas-y.
En fait, c'est ce que tu m'as dit. T'as bien précisé l'un des plus beaux.
Oui,
top
bien
3,
sûr.
T'as dit top 3. Top 3
parce qu'au final, ok, t'as Bruges qui pour moi est top 1, okay. Indéniablement. Peut-être Genk top 2. Ça dépend des matchs. Encore qu'il y a certains matchs Genk qui font peur et tu vois qu'ils sont pas prêts pour rivaliser pour le titre. Pour moi. Et après, en troisième position, honnêtement, quand tu regardes, il y a quand même beaucoup d'équipes que tu peux remettre en troisième position. Et donc, pourquoi pas Dender, ils sortent de temps en temps certains matchs, même si on a un avis un peu biaisé avec ce match-ci, parce que contre Courtrai, au final, c'est Courtrai qui offre les goals, que les erreurs qu'ils font, c'est cadeau. Mais je pense que Dunder joue, comme tu l'as dit, un beau football.
Donc ça joue mieux que l'Union et que Anderlecht.
Bah Anderlecht, oui, clairement, je pense, parce que Anderlecht, en fait, bah Anderlecht, on en parlera plus tard dans le match de la semaine, mais tu verras qu'Anderlecht, je trouve que les résultats sont clairement biaisés par un facteur dont on parlera plus tard, que voilà, sinon on va s'éterner sur le sujet. Et l'Union, bah ça dépend des matchs aussi, donc depuis le début de la saison, je pense que l'Union, il y a plein de matchs où ils jouaient très très mal. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais ça fait 3-4 matchs que ça va mieux.
On a une belle phrase hein, quand même, Xavier. Le FCV d'Ender joue mieux que le Sporting d'Anderlecht. Vous l'avez entendu. Voilà. Thomas, parole à la défense.
Vraiment à deux doigts de partir des minutes. Je suis pas bien là.
Et pourquoi?
Le souffle coupé presque.
Explique-nous pourquoi.
Non, moi, je vais pas dire que le d'Ender ne joue pas bien parce que franchement, c'est une équipe qui joue bien. Mais je dirais plutôt que c'est l'équipe qui joue de manière très efficace. C'est l'équipe la plus efficace de notre championnat. Ça, je suis d'accord. Si t'avais donné cette phrase-là, là, j'aurais sorti le bouton vert. Mais meilleur jeu, non. Ça, je suis pas d'accord. Ils ont des très bons joueurs et je pense notamment, j'aimerais mettre deux joueurs en lumière. C'est surtout Ferraro, ancien joueur de Charleroi et du RODM. Sur son piston gauche, franchement, il est excellent. J'ai failli le mettre en joueur de la semaine, mais je l'ai pas mis parce qu'un autre joueur a été à surclasser Ferraro.
T'as certainement un fan club derrière toi qui attend qu'il
dise
des choses.
Du coup, non, franchement, Dender, ça joue bien. Mais c'est très efficace et par contre le recrutement au niveau des attaquants, ça c'est très intéressant et c'est vraiment très bien et comparé au standard parce qu'on a parlé parce que c'est un peu le même style de jeu avec deux attaquants. Le truc au SC Dender, c'est t'as 4 attaquants et t'as 4 attaquants du même niveau. 4 attaquants, mais 4 attaquants de styles complètement différents et complémentaires. Et c'est ça qui marche très bien. Je pense notamment à Schneider. Qui est vraiment très très bon. C'est pas un attaquant.
Quel impact, quelle puissance. C'est une véritable brute épaisse, ce mec.
Exactement. C'est pas le genre d'attaquant qui va marquer des buts à tout va toutes les semaines, mais il est hyper important dans la conservation du ballon et dans les infiltrations dans le rectangle. C'est très intéressant. C'est un joueur vraiment très intelligent.
Quentin.
L'intelligence de jeu surtout. Moi, je m'en souviendrai du goal qu'ils ont mis au club de Bruges.
Oui.
La remise qu'il met. Franchement, c'est du championnat belge, on voit rarement un attaquant qui a cette intelligence entre le point de pénalty et le petit rectangle de pas tenter et de ouvrir comme ça tout le goal à son coéquipier. Franchement, je me souviendrai de ce goal pendant toute la saison. C'était pour moi un des plus beaux goals au niveau du collectif. Ouais. Franchement, ça m'a bluffé du championnat belge, voir un joueur qui a réussi à avoir cette intelligence de faire ça à ce moment-là au club de Bruges. Mais c'était bien joué.
Ils ont beaucoup de joueurs intelligents, même dans le secteur défensif.
Ouais. Hein, ils ont quand même beaucoup de commentaires positifs.
Oui,
non,
mais même parce que faut savoir aussi que Evrard, c'est un entraîneur qui fait énormément de rotations. Il a déjà eu plein de compositions d'équipes différentes. Tout le temps, il change. Et a priori, ça marche. Donc, ils ont vraiment un effectif très complémentaire et très homogène. Et quasiment tous du même niveau. Il n'y a pas un joueur au-dessus, un joueur en dessous. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que lors du recrutement, ils ont fait énormément confiance au noyau de la saison dernière. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en D2 la saison dernière et qui sont à un niveau très, très intéressant en Division 1.
Mais cette équipe de Dender me fait vraiment penser à une équipe qui a du fond. Et c'est grâce à Vincent Evrard. Du coup, forcément, c'est extrêmement positif. Mais si on prend l'inverse, est-ce qu'elle n'est pas trop Vincent Evrard dépendante? Parce que sans lui, bah, c'est toute une structure qui tombe, toute une base, toute une matière qui s'effondre, en fait. Il est vraiment, quelque part, l'identité de son équipe. Il a réussi à retransmettre toutes ses idées dans une équipe qui le suit. Il y a un collectif magnifique. Avec lui, je pense que Dender ne sera pas un feu de paille et ils peuvent aller loin. Mais s'il part et s'il venait à, par exemple, être sollicité par des plus grands clubs, là, je pense que Dender, pour le coup, pourrait vraiment s'écrouler, quoi.
Là, je suis pas d'accord avec toi parce que l'équipe qui a été, qui a réussi à avoir le ticket pour aller en Pro League, c'était sous Timmy Simons. C'est lui qui a créé vraiment la base de ce Dender. Vincent Evrard l'a continué et le fait de manière vraiment hyper bien. Mais pour moi, c'est vraiment Timmy Simons qui a mis les bases du côté de Dender. Et pour revenir à ce que Xavier disait, que c'était l'une des meilleures équipes de notre championnat, je trouve même que Westerlo joue mieux que Dender aujourd'hui.
Alors, d'accord, mais là, tu m'as cité deux techniciens qui sont, selon moi, la nouvelle génération des super entraîneurs belges. Je pense pas que Dender sera capable, après avoir trouvé le meilleur remplaçant possible à Timmy Simons, de trouver encore meilleur que Vincent Evrard. C'est très compliqué de faire mieux que Timmy Simons et Vincent Evrard avec les moyens de Dender. On est d'accord quand même là-dessus.
Ça, on est d'accord, mais seul l'avenir nous le dira, parce que là, il n'y a pas question de
changer d'entraîneur. Il n'est pas question de le faire, bien sûr.
Donc, c'est compliqué à dire, mais il faut aussi savoir que Dender, c'est l'euphorie de la première saison en Division 1. terrain. On a vu ça plein de fois les saisons précédentes. Celui qui monte en D1, la première saison, elle est toujours très intéressante, cool, voilà, c'est sympa. Mais la saison après, il faut confirmer et c'est là où le problème se situe. Donc on verra l'année prochaine comment ça se passe. Donc je reste méfiant.
Donc tu restes méfiant, donc oui, c'est possiblement un feu de paille.
Oui, c'est possible.
Toujours la saison de confirmation, quand il a raison, la deuxième saison c'est toujours le plus dur et le plus important, parce que là clairement ils sont dans l'euphorie du titre.
Donc possiblement un feu de paille pour toi aussi.
Oh, oui, clairement, parce qu'il faut pas oublier que déjà on avait reçu Julien Gorius, ici directeur sportif de Dender l'année dernière, et qui était clairement déjà étonné, c'était pas les objectifs de monter en division, parce qu'ils avaient déjà un des plus petits budgets de D2. Mmh. Donc à voir dans le long terme s'ils arriveront à s'installer en D1, sachant qu'on connaît très bien la Jupiler Pro League, et on sait très bien que la concurrence est assez rude, surtout dans les équipes du bas de classement. Chaque année, il peut avoir une équipe qui peut marquer un peu le pas et c'est très très compliqué. Donc l'année prochaine, il faudra bien les surveiller, mais s'ils arrivent à sortir une belle saison, ça serait beau.
Bravo à Dender en tout cas et à Vincent Evrard pour leur magnifique travail. La troisième phrase sur laquelle vous allez devoir vous écharper, messieurs, d'accord, pas d'accord, et cette fois-ci on part direction la Première Ligue. Vous savez, il y a eu un derby de Manchester qui s'est terminé en haut de boudin pour l'équipe qui recevait à domicile. Après sa défaite donc contre Manchester United, est-ce que les Sky Blues Man City a dit définitivement adieu au titre en Première Ligue ? Xavier, non. Thomas, d'accord. Oui. Quentin, non. Battez-vous, c'est parti. On va d'abord écouter Thomas.
Définitivement, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais ils ne seront pas champions. Parce que je pense que Liverpool est vraiment la meilleure équipe de la Première Ligue. Je pense qu'ils vont tout droit vers le titre. Et on voit un Chelsea qui est quand même plus intéressant que les saisons précédentes, qui pourrait jouer un rôle important. Et le nombre de points perdus ici par City, c'est quand même criant. Enfin, personne s'y attendait. La crise, elle ne s'arrête pas, alors que c'est le type de club et le type d'effectif qui devrait justement, il devrait retrouver la solution de manière très rapide, mais ça ne veut pas venir. Donc moi, je suis plutôt inquiet. Ils seront pas champions, mais ça veut pas dire qu'ils seront pas placés dans le classement.
Ok, donc Manchester City a perdu le titre pour Thomas. Xavier.
Bah moi, je suis pas tout à fait d'accord. Potentiellement, ils le seront pas, hein, mais je pense qu'ils ont toujours leur chance. Parce que il y a quelques années aussi, je pense que Liverpool avait genre 10 ou 12 points d'avance, plus ou moins à la même période, et au final, ils ont pas été champions. Et je pense qu'on peut vraiment dire s'ils seront potentiellement champion ou pas. Après le Boxing Day aussi, le Boxing Day c'est toujours très très important en Angleterre, il n'a pas encore eu lieu, il aura lieu bientôt, et après là, si tu me reposes la question en janvier, je pourrais peut-être te répondre pour Manchester City, mais je pense qu'il faut vraiment attendre cette période-là vraiment très très importante en Angleterre pour savoir qui peut rêver de titre ou ne peut pas rêver de
titre. Tu leur laisses cet instant de survie.
Voilà.
Le Boxing Day.
Même pas le Boxing Day. Pour moi, il y a encore le mercato de janvier. City, un des clubs qui a le moins dépensé depuis les années 2020. Au niveau du mercato, je pense que c'est 150 millions. Depuis 2020 pour Manchester City. Donc je pense que là, ils vont vraiment sortir le gros chéquier.
Ils ont des risques. Mais
ils ont surtout 125 charges que la Première Ligue leur a assénées et dont ils doivent se défendre.
Je crois pas qu'ils vont dépenser
mais
beaucoup.
Même à ce niveau-là, quand on regarde au niveau des points, ils ont que 9 points de retard sur Liverpool. Ils reçoivent encore Liverpool. Et Liverpool, je suis d'accord avec toi ici sur la globalité de la saison et la meilleure équipe de Première Ligue, mais la Première Ligue, tout est possible. Qui aurait pronostiqué que Liverpool allait perdre ce week-end à domicile contre Fulham et ils ont perdu? Donc ils ont fait match nul.
J'ai joué, j'ai mis Liverpool.
Ils ont fait match nul.
Ils ont fait match nul à domicile contre Fulham. Donc tout est possible en Première Ligue. On sait que n'importe quelle équipe, à Nottingham Forest peut prendre des points, même des Crystal Palace qui aime bien prendre des points contre les grosses équipes. Donc tout est possible, sachant qu'ils doivent encore recevoir Liverpool, donc il y a potentiellement que 6 points d'écart. Clairement, moi je trouve que c'est encore jouable, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'ils ont perdu le titre.
Ok, c'est beaucoup trop tôt. Ben moi je vais quand même vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis quand même extrêmement inquiet parce que je ne vois plus la magie de Pep Guardiola. J'ai l'impression que cet effectif a lâché tout simplement son entraîneur.
J'ai peur, ouais.
Il y a un vrai problème de fin de cycle. Il y a des joueurs qui n'auront plus, à mon avis, le niveau que certains attendent d'eux. Je pense notamment à Kevin De Bruyne. Pour moi, Kevin De Bruyne, c'est un joueur exceptionnel, le meilleur milieu de terrain de Première Ligue quand il est à 100%, mais j'ai pas l'impression qu'on le retrouvera à 100%. En tout cas, du côté de Manchester City, physiquement, il y a quelque chose qui a lâché, et pas que chez Kevin De Bruyne, chez les autres joueurs également. Et puis, à gauche, à droite, il y a des joueurs qui sont très très forts. Regardez par exemple un Doku. Doku a fait des choses exceptionnelles. Tout le monde a targeté le petit moment où il fait tomber Mazraoui dans le match face à Manchester United sur les réseaux sociaux. Mais je suis désolé, la reste du temps, c'est bien Mazraoui qui a absolument avalé Jérémy Doku. Il a perdu quasiment tous ses duels. On ne l'a pas vu. Et derrière, son remplaçant, il fait pas mieux, puisque je pense que depuis 2021 ou un truc comme ça, il a plus marqué un but, Jack Grealish. Enfin, je pense que je vais un peu trop loin dans les stats.
Il a 45 matchs de suite sans marquer.
Voilà.
Et t'as Núñez, qui est aussi un concurrent à Doku, qui provoque le penalty.
Les erreurs.
Ah ouais, qui provoque le penalty également. Après, je pense que c'est une mauvaise spirale. Et clairement, là, quand tu mènes 1-0 à la 87e contre Manio, que tu perds 1-2, je pense qu'il y a vraiment un truc, mais je pense que ça peut vraiment s'inverser. Et c'est là qu'on va voir si Guardiola est encore le coach qu'il faut à City pour essayer de faire cette différence. Il y a moyen, mais il y a un truc qu'il faudra, par exemple, pour Doku. J'adore Doku. C'est un joueur qui, par exemple, tu vas au stade pour voir Doku, pour voir ses dribbles et tout. Mais il manque un truc. Comme Jordan Lukaku l'a dit, c'est but. Et pour lui, c'est des passes décisives ou des buts. Il faut des stats.
Mais c'est pas un attaquant.
C'est un attaquant gauche, ouais, mais il manque des stats, genre des passes des passes décisives. Pour lui, des stats, il manque des stats. Du coup, c'est bien, il est le meilleur dribbleur et tout, mais il faut plus de stats.
Voilà, je pense qu'il se voit un peu Eden Hazard, il devrait plus se voir Vinicius Junior. Voilà, c'est mon idée de Jérémy Doku. S'il voulait un petit peu progresser, aller voir plus sur ceux qui effectivement ont par contre dans le viseur tout de suite la cage adverse. C'est peut-être aussi quelque chose à jouer. Cinquième, hein. Manchester City, cinquième de Première Ligue. Vous croyez encore au titre, mais moi, ça me semble un peu compliqué, effectivement. Bon, ouais. On va passer quand même au match de la semaine. Le match de la semaine, il est dédié au Sporting d'Anderlecht. Et oui, bien sûr, amis fans du Sporting d'Anderlecht, on ne vous a pas oublié. On vous dédie le match de la semaine. Victoire, évidemment, 2-0 du RSCA. Mais jusqu'où s'arrêtera le RSCA, mon cher Thomas?
Mais jusqu'au titre.
En tant que Sporting Boy, tu vas dire qu'Anderlecht va être champion?
Non, je ne dis pas qu'Anderlecht va être champion, mais Anderlecht a le noyau et les qualités pour devenir champion. Je pense qu'avec cet effectif-là, Anderlecht peut parfaitement devenir champion.
Avec cet effectif-là?
Mais attends.
T'es en train de me dire qu'il ne manque rien au Sporting d'Anderlecht pour rivaliser avec le club de Brugge?
On a déjà eu cette conversation il y a deux semaines. Dans le noyau actuel, pour moi, il ne manque rien. Qu'est-ce qui manque?
Dis-moi. Mais pas un axe défensif? Tu peux être champion avec Zonka?
Mais Vertonghen va revenir.
Ah, tu crois que Vertonghen va revenir et va être en forme?
Et à quel niveau, surtout, toi?
C'est la liste de Noël. On fait les vœux.
Je rêve ou vous êtes en train de critiquer Vertonghen?
Non, je suis en train de dire qu'il est fini et que Vertonghen ne reviendra plus au niveau.
Non, on dit qu'il est complètement carbo.
Voilà, c'est ça.
Il est pas à niveau aujourd'hui, mais on a la trêve et il va, pour moi, il va revenir pour la trêve.
Ils arrêtent pas de repousser à chaque fois son retour.
Oui, il repousse peut-être son retour, mais pour moi, il va revenir et on sait.
Il viendra pour la dernière journée du championnat.
Pour les playoffs.
Les playoffs, il va faire une erreur, il va se blesser. Merci, au revoir.
Ah mais putain, vous êtes vraiment horrible, exécrable avec les joueurs.
Mais non.
Vous oubliez que Vertonghen, c'est genre un taulier de notre football.
Est-ce qu'on juge ça? L'instant présent. On dit que l'instant présent, Vertonghen, il a fait une carrière incroyable. En tant que Belge, franchement, je suis fier de voir la carrière qu'il a fait. Mais il faut se rendre compte qu'il faut arrêter de se dire que Papy Vertonghen va revenir en forme, qu'il va être un des meilleurs défenseurs du championnat, qu'il va pouvoir jouer à côté de Simic, qu'il va être meilleur et tout.
Pourquoi il pourrait pas?
Parce qu'il est fini.
Parce que tu dis que est-ce que Anderlecht pourrait champer avec Zanka? Honnêtement, j'ai toujours dit non. Mais est-ce que tu penses que Vertonghen serait inférieur au niveau de Zanka aujourd'hui?
Vertonghen n'arrivera pas à revenir physiquement en
forme. Mais Anderlecht n'a encaissé que 13 buts depuis le début de saison. C'est la meilleure défense du championnat.
T'as Kaufmann qui est en feu. C'est ça qui fait Anderlecht.
Ok, mais
c'est l'arc qui cache la forêt.
Un peu trop parfois. Il s'énerve un peu pour rien. Mais c'est pas les trois attitudes.
Mais c'est pas quand tu vois Kaufmann, c'est le deuxième gardien qui a fait plus d'arrêts derrière Davirou. C'est pas une équipe comme Anderlecht. C'est pas normal que ton gardien soit le gardien qui fasse presque le plus d'arrêts en championnat. Encore Sokent, il en fait 6. Mais c'est lui qui sauve Anderlecht.
D'accord, mais c'est pas que Kozemas, là, ça, faut abuser. Vous avez un Simic qui est exceptionnel en défense centrale.
Mais tu peux pas être champion avec Zanka.
T'as un Sardella et t'as un Augustinsson et NDI parce que t'as deux joueurs sur le côté gauche qui sont excellents aussi. On peut pas dire que les quatre derrière sont pas à niveau.
S'ils sont si excellents que ça, comment ça fait que ton équipe subit, que Kozemas, il doit faire autant d'arrêts depuis le début de la saison? C'est que ta défense, offensivement, elle apporte, mais derrière, il y a un souci. Sinon, tu concéderais pas autant d'occasions.
Ben oui, mais ça c'est pas grave qu'ils ont encaissé. C'est justement parce qu'ils sont devant, ils encaissent presque pas. Donc à un moment donné,
Kuzman fait la saison de sa vie. Mais si à un moment il a cru pour 2-3 matchs, Anderlecht ne prendra pas les points.
Il y a pas que Kuzman dans cette équipe là. Si Anderlecht a autant se prend autant d'occasions des équipes adverses, c'est parce que justement ils sont devant dans le match et que ils subissent justement le jeu de l'adversaire parce qu'ils sont devant, ils sont en train de défendre.
Bruges,
ils sont
plus en train d'attaquer. Aussi, ils subissent pas autant d'occasions. Ouais.
Mais Bruges, Mignolet, c'est un des gardiens qui a fait le moins d'arrêts, par exemple. Toi.
Aussi, mais ils subissent pas autant d'occasions. Mignolet subit pas autant de tirs.
Oui, ok, aujourd'hui. Mais ils l'ont déjà vécu aussi, ça.
Je pense que vous vous trompez de débat, les amis. Vous allez sur la défense, vous avez raison. D'ailleurs, j'y reviendrai dans l'instant cadeau. Mais la vérité, c'est que Le problème pour moi, il est surtout sur le sur-régime offensif du Sporting d'Anderlecht. À l'heure actuelle, on est sur une équipe qui est extrêmement en confiance, où on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a la possibilité de mettre un but, eh bien il est converti. Faudrait regarder le rapport entre XG, donc expected goals, et goals finalement réalisés. Il y a vraiment un pourcentage extrêmement haut. Le Sporting d'Anderlecht est vraiment une équipe extrêmement efficace. Mais cette teneur-là, ce pic de forme-là, pour moi, contrairement au club de Bruges, qui est sur quelque chose de très linéaire, il n'est pas voué à tenir.
Mais ça fait des semaines que vous dites ça, qu'ils vont pas tenir, les gars. Ça fait des semaines que vous dites
qu'on va pas tenir. Ça fait 2-3 semaines qu'ils sont très en forme, et c'est très bien, mais c'est ce qu'on appelle un pic.
Ça fait au moins plus d'un mois.
Ça va redescendre, c'est sûr. Je suis persuadé. C'est naturel dans l'énergie d'une équipe que ça redescende. Ce n'est pas le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire?
Mais j'ai jamais dit que c'était le FC Barcelone. Moi, j'ai dit juste qu'aujourd'hui, ils ont les joueurs et la qualité pour devenir champion. Et je dis pas qu'ils vont être un beau champion. Je dis pas qu'ils vont produire le meilleur jeu. Je vous dis juste que ils ont les joueurs et les qualités pour.
Faut juste espérer un truc, c'est que Dolberg ne perde pas justement cette grande forme ou ne soit pas vendu en janvier. Sinon, c'est impossible.
Oui, mais ça, on peut dire pareil avec.
Non, mais là, c'est un joueur. Tu parles que d'un joueur. Hein.
Oui, mais tu peux dire ça.
Si lui, il n'arrive plus à performer comme il performe maintenant ou qu'il est vendu en janvier, on ne sera pas champion. C'est
sûr,
certain.
Mais tu peux dire ça avec un Solis aussi. Si Solis ne performe plus, tu mets qui à sa place qui va performer au même niveau.
T'as d'autres joueurs qui peuvent faire une différence.
Je t'écoute.
T'as un Skovolsen qui peut faire une différence. Qui a du potentiel. Tu l'as encore vu le goal qu'il met hier, dans l'angle où il est, comment il arrive à l'enrouler, franchement, faut avoir du talent pour le mettre comme ça. T'as un Van Aken, t'as un Nilsson qui va revenir, t'es un grand adepte de Nilsson. Donc t'as plusieurs autres joueurs.
On parlait de Dolberg et Solis, là, tu parles sur
non,
Van Aken.
Non, c'est pas lui qui parle de Solis, parce que toi, tu dis que tu insinues qu'à Bruges, il n'y a qu'un joueur, il n'y a que de Solis.
Moi, je dis pas qu'il n'y a qu'un joueur.
Moi, je dis qu'Anderlecht, la forme, elle dépend que d'un joueur.
Oui, mais tu dis qu'on enlève Dolberg, t'as plus Anderlecht, mais t'enlèves Solis, je suis pas certain que Bruges jouerait au même niveau qu'aujourd'hui.
T'as d'autres super bons joueurs à Bruges qui peuvent faire une différence.
Qui tu mettrais à Solis si Solis n'était pas à Bruges aujourd'hui, tu mets qui?
Et alors moi je vais vous poser.
Tu mets qui à la place de Solis parce que tu me réponds pas à ma
question. Mais Talbi d'un côté, Skovolsen de l'autre.
Donc Talbi va performer au même niveau que Solis.
Mais pas tous en même temps.
Mais t'as pas que Solis qui peut performer à Bruges, c'est ça que tu comprends pas?
Mais moi je te dis que moi si t'enlèves Solis, Bruges ne joue pas aussi bien qu'aujourd'hui.
Pas sûr.
Mais si, carrément les gars, attends, il est exceptionnel ce joueur.
Ouais, mais t'as d'autres super bons joueurs.
Mais oui, j'ai pas dit le contraire. Si tu enlèves Solis, t'as plus la même qualité de jeu et c'est la même chose. Si t'enlèves Dolberg,
non, la différence est beaucoup plus grosse.
Mais t'enlèves Dolberg de cette équipe d'Anderlecht, t'as plus le même niveau non plus.
Mais la différence est beaucoup plus grosse.
Et est-ce que David Huber, par son seul talent sur le long terme, et si on oublie la problématique liée au renfort hivernal, donc imaginons il n'y a pas de transfert entrant cet hiver, est-ce qu'il est capable de hausser le niveau en termes de régularité et d'intensité à la même hauteur que celle du club de Bruges? Est-ce que David Huber, par son coaching, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il est capable de faire ça?
Impossible à dire. Cet entraîneur vient d'être installé en tant que terrain d'Anderlecht. C'est impossible à prédire s'il va garder le niveau, s'il a les capacités pour ça. Cette question-là, désolé, je peux pas.
Tu peux pas y répondre. Très bien. Quentin.
Est-ce que David Huber aurait les capacités sans...
Est-ce que son talent... Parce que moi, je vois énormément d'éloges sur David Huber. Je trouve que c'est un excellent entraîneur. Il a du talent. Mais est-ce que il faut vraiment compter sur lui pour faire en sorte que le Sporting soit vraiment le prétendant
On peut lui mettre un mérite. C'est que pour moi, je trouve Dolberg s'est bien transformé sous David Huber. Dolberg est vachement meilleur sur lui que sur l'ancien coach Riemer. Donc,
Est-ce qu'on peut poser la question différemment? Est-ce qu'on peut poser la question en posant donc justement, depuis l'arrivée de Huber, est-ce que le jeu d'Anderlecht est meilleur avec Huber ou sous Riemer? On peut quand même dire qu'il y a une progression dans le jeu.
Bien sûr.
Bah alors, pourquoi on essaye toujours de dire...
Parce qu'en fait, c'est le Sporting d'Anderlecht, c'est le plus grand club du pays, 34 titres nationaux. À un moment donné, il faut avoir ce qu'on appelle des expectations. Il y en a des attentes.
Mais est-ce qu'ils répondent pas aux attentes aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé les années précédentes? Est-ce qu'ils sont pas justement remontés à un niveau proche d'avant?
Le bon supporter d'Anderlecht.
Ils sont dans l'évolution.
Le bon supporter d'Anderlecht. La première chose qu'il dirait, c'est bien, mais on peut faire mieux. Parce que le Sporting d'Anderlecht, c'est pas encore ce qu'on voit. Ça peut encore être mieux. Les vrais supporters d'Anderlecht vont attendre toujours encore plus de leur équipe. Parce que ceux qui sont en train de montrer, c'est une équipe qui se réveille, qui est belle à voir jouer, qui est intéressante. Mais ça, c'est bon pour satisfaire les bobos qui vont une fois tous les mois au stade. Hein.
Okay,
les vrais supporters d'Anderlecht, ils veulent revoir Anderlecht battre le club de Bruges au club de Bruges.
Oui, je sais.
Et c'est pas prêt d'arriver pour le moment.
Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Faut savoir que sous Van Hazebrouck et tout, le noyau, c'était exécrable. On a connu un Anderlecht vraiment très très bas. Là, ils sont quand même en train de remonter depuis 2-3 saisons et de manière quand même progressive. C'est pas en dents de scie. C'est vraiment, on remarque, et même dans le noyau, t'as quand même des joueurs que tu pouvais pas recruter il y a 2-3 ans. Ils ont quand même un très bel effectif en direct aujourd'hui.
C'est vrai, c'est très positif, effectivement. Mais je pense que quand on a des attentes pour un club comme le Sporting, on peut se permettre d'aller chercher le petit détail. Parce que c'est un grand club.
Faut pas aller trop vite parce qu'il faut oublier que des clubs, ça arrive dans des crises. On connaît le Standard, c'est pareil. Ils ont aussi des crises. Chaque club a connu des crises. Bruges aussi, il y a 7-8 ans, ils ont connu aussi des périodes difficiles. C'est le foot, t'as des périodes difficiles et il faut remonter la pente. Et là, ils sont en train de le faire. Et ça, il faut justement l'apprécier et le mettre en lumière.
Et ça va nous permettre de faire la transition avec votre séquence. On a remplacé la patte de l'expert de Quentin, on l'a transformé un petit peu. C'est Noël, c'est le moment de faire des cadeaux, c'est donc le moment de l'instant cadeau. Alors l'instant cadeau, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement à l'approche du mercato, des éléments, des nouveaux joueurs par exemple, qu'on veut voir accueillir dans les clubs que nous avons choisis. Moi, on parlait du Sporting d'Anderlecht, j'ai choisi le RSCA. Je souhaite voir advenir un transfert, surtout lié aux défenses centrales. Évidemment, la défense centrale, c'est certainement le point le plus important pour le Sporting d'Anderlecht. Je crois toujours en Luis Vázquez, je crois toujours évidemment en Casper Dolberg. Ces joueurs ont du talent. Ceci dit, la défense centrale manque grandement de qualité. Selon moi, il y a des joueurs qui vont à terme se blesser ou être suspendus. Ce sera pas suffisant pour permettre au Sporting d'Anderlecht d'aller chercher le titre. Et s'ils veulent le faire, la seule chose à réaliser, c'est évidemment un transfert en urgence d'un défenseur central de grande qualité aux côtés, évidemment, de Giancarlo Simic. Le cadeau que va offrir Xavier, c'est un cadeau que tu vas offrir, tu l'as décidé, au Sporting Charleroi. Ouais,
et ben c'est pour le même poste que toi, c'est en tant que défenseur central à Charleroi aussi, que voilà, depuis maintenant, on va dire qu'ils ont trouvé un attaquant avec Stulic qui a fait des bons matchs dernièrement. Mais je trouve que en défense, ils ont que des jeunes, et ça fait longtemps, et en fait, ils ont que des jeunes de 22, 23 ans, 24, enfin, fort jeunes, sans expérience, qui prennent souvent des jaunes pour rien, qui font des bêtes erreurs, qui prennent des rouges. Charleroi a plus gardé de clean sheet depuis mi-septembre, presque. D'ailleurs, un match contre Anderlecht à 0-0, si ma mémoire est bonne. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un bon joueur d'expérience vraiment dans la défense pour vraiment stabiliser cette équipe de Charleroi qui joue bien. Comme Thomas aime bien le dire, ils ont un noyau justement pour jouer une qualité de jeu, pour jouer peut-être ce top 6. Mais avec cette défense, c'est très très compliqué. Et moi, j'ai même trouvé peut-être un profil qui pourrait être intéressant. Bon, après, il est peut-être en manque de rythme, mais par exemple, t'as Dedric Boyata, c'est un joueur qui a pas mal d'expérience. Il faut trouver des joueurs transférables, qui connaissent bien le championnat, qui sont...
Va sur ton argumentaire, on t'écoute. Voilà.
Moi, j'ai pris lui parce que c'est dur de trouver un joueur qui est transférable dans son club, qui connaît bien le championnat belge, donc qui doit être disponible tout de suite et qui a pas 2 mois pour s'adapter, qui a de l'expérience, il a plus de 300 matchs en pro, il a été en sélection belge. Et je pense qu'il peut apporter un jeune président. Trouvez-moi un défenseur central.
Non, mais c'est 3 millions bruts par an.
C'est
ça. 3 millions bruts par an.
Ouais, mais c'est mieux ça ou pas jouer.
Et même, ça fait des années.
Bruges essaye de le faire vendre, c'est impossible.
Voilà. Évidemment, Bruges rêverait de faire un transfert et de lui permettre d'alléger sa masse salariale.
Voilà, mais au pire, il y a peut-être un prêt ou quelque chose. Mais si tu le fais jouer pendant 6 mois, c'est peut-être plus simple de le vendre aussi après.
D'accord.
Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il faudra un défenseur central d'expérience pour le Sporting Club de Charleroi.
Ne faudrait-il pas plutôt déblayer le secteur offensif pour avoir une véritable alternative à Nicolas Stulic?
Bah, les alternatives, il y en a. Le problème, c'est que pour moi, elles sont pas décisives, mais il suffit qu'ils aillent, qu'ils marquent un but. On sait que les attaquants, ça va fonctionner à la confiance.
Toi, tu prends un Dabaï.
Mais non, mais Dabag, il va partir Dabag. On s'en fout de Dabag.
Voilà, oui, mais sauf qu'on fait pas une saison et demie sans attaquants supplémentaires.
Mais t'as Gray John Kay et t'as,
Pour dépanner, ça peut aller.
Ah, Gray John Kay est très bon pour être officiel.
Ici là. Voilà. Mais non, mais Gray John Kay, sur papier, c'est pas un mauvais attaquant. Mais bon, après, il est sur le banc. Donc, si t'as besoin d'un backup, tu le mets, tu le fais rentrer.
Voilà. Gray John Kay, il a des problèmes d'hygiène de vie, qui sont vraiment.
Bah, qu'il appelle
Denkay
alors,
Ouais. Il appelle Denkay pour, évidemment, le Football Time Nutrition. Yes! Spécial santé. Non, mais la vérité, c'est que je suis d'accord sur ce secteur de défenseur central, mais il y a quand même un manque de buteur, il y a quand même quelqu'un qui doit finir ce ballon Charleroi, Xavier.
Je pense qu'on peut laisser du temps à Stulic. On a vu qu'il a les qualités, et puis après, derrière, c'est juste des numéro 2 ou numéro 3, donc ça, tu en as. Des gens pour dépanner un match quand Stulic sera suspendu, puis il aura pris trop de cartons jaunes ou autres, donc ça passe. Je pense que le vrai problème, c'est la défense centrale à Charleroi.
Voilà.
Et il fallait choisir un cadeau, sinon vous pouvez en faire.
Non, mais c'est bien, voilà. Moi, je vais agrémenter ça de mes informations. Okay. Avant de recruter, le Sporting va devoir vendre un joueur, et ils sont en train de regarder le marché pour une vente d'Adem Zorgan. Voilà. Okay. Je suis en train de... Je te le donne. J'aimerais bien aussi le recevoir dans Football Time, Thomas. Je suis également
c'est un de mes joueurs préférés en Pro League, faut pas qu'il parte.
Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'offre, mais ils sont en train de regarder le marché.
Très content qu'ils soient encore chez nous aujourd'hui.
Thomas, quant à lui, a décidé d'offrir un cadeau, évidemment, sous le sapin, sympa, mignon, joli, à une équipe qui, justement, a les mêmes couleurs que celle du Papa Noël, rouge et blanc. C'est le Royal Antwerp Football Club. Qu'est-ce que tu vas mettre sous le sapin, mon cher Thomas?
J'en ai parlé en début de saison, quand on avait analysé les mercatos des clubs, et j'avais mentionné que ce qui manquait du côté de l'Antwerp, c'était un backup à Vincent Janssen. C'est vraiment, vraiment nécessaire parce qu'on l'a vu ce week-end, il n'était pas là. T'es d'accord avec moi?
Je suis 100% d'accord.
Je vois comme ça. Je vois une petite tête.
Laisse-le finir sa séquence. Ça va aller. Tu vas voir ton moment.
Tu vas voir ton moment.
Je vois ça comme des petits chiens dans les voitures là. Tu vois ça? Ou les dames qui font un wild.
Tu t'emballes.
Désolé. Du coup, ouais, donc pour moi, c'est vraiment un backup pour Vincent Janssen parce qu'on a vu face à Malines, ils ont dû mettre Kerk en neuf. Ça n'a pas marché. Et comme on l'a déjà dit de manière générale, la profondeur du banc de l'Antwerp, ça pose vraiment question. Heureusement qu'ils ne jouent pas en Europe et qu'il n'y a que le championnat belge et la coupe, parce que ça va être très compliqué, parce qu'ils ont aussi recruté un Dennis Pratt et un Riedewald qui sont complètement hors rythme. Ils ont vraiment pas de rythme. Donc ça va être compliqué pour l'Antwerp. Ils avaient fait un bon début de saison, mais là, ça commence à être compliqué.
Après, Andreka sur le banc, c'est un choix assez osé du coach, ton homme en forme. Alors, tu peux penser que c'est un Balikoucha, mais qui a été de nouveau blessé ou je sais pas quoi, il était même pas sur la feuille. Tu fais monter Balikoucha, je trouve ça un peu bizarre de mettre Andreka, ton homme en forme cette saison, sur le banc dans ce match-là, sachant que t'as déjà pas Janssen. Donc tu prives de tes deux éléments offensifs très importants. Choix du coach assez étrange ici pour ce week-end.
Oui, puis je rejoins Thomas concernant le recrutement. Se focaliser uniquement sur l'efficacité d'un Jaron Cherry qui, on rappelle, a 36 ans, c'est pas non plus la chose la plus évidente aux côtés de Vincent Janssen. Et puis on rappelle aussi qu'il n'y avait pas eu de transfert pour remplacer Georges Yennekena.
Hein, c'est ça qui a été c'était ça l'erreur du mercato de cet été. Ils avaient pisté quelques joueurs, mais ça s'est pas fait. Je sais plus exactement qui c'était. Je me souviens plus, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas de backup pour Vincent Janssen et ça, c'est quand même assez...
Et si tu t'en rappelles, évidemment, tu le mettras dans les commentaires. Voilà, oui, vous aussi, si vous en rappelez, vous mettrez ça, évidemment,
Janssen
dans les commentaires.
Janssen qui est à deux doigts de signer au Mexique, en plus, hein, oui, cet été. Donc, ouais. Je n'ose même pas imaginer s'ils l'avaient vendu, comment ils auraient fait.
Bah, je pense qu'ils auraient racheté un attaquant.
Ouais, mais s'ils n'arrivent pas, c'est ça pour eux.
Et ça travaille très bien.
Moi, si j'étais Charleroi, je prêterais Dabag à l'Antwerp.
Voilà, c'est ça, exactement. N'importe quoi.
On va
arrêter de lui donner la parole. C'est bon. Parce que maintenant, c'est le gros dos. Là, maintenant, c'est Quentin qui s'en charge. Pourquoi c'est le gros dos? Parce qu'on va parler, évidemment, du mercato du Standard de Liège. C'est ce qu'on appelle le grand bazar. C'est la caverne d'Ali Baba. Faire, évidemment, tout avec rien. C'est l'habitude des recruteurs du Standard. C'est parti. Donc maintenant, Quentin, déguise-toi en scout.
On doit se focus.
Quel cadeau? Allez, quel cadeau?
Il n'y en a qu'un qu'on peut choisir. Et moi, pour moi, le gros problème, c'est que le Standard de Liège a le pire milieu de terrain du championnat belge.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est le pire milieu de terrain du championnat belge.
Là, c'est une line. Là, on a la line. On a clairement la ligne du titre.
Exactement. Et tu peux pas faire quelque chose sans que ton élément principal soit mauvais. Et on en a parlé précédemment, il faut un milieu créatif au Standard de Liège. Il y en a pas, mais quand on regarde les statistiques, c'est O'Neill, il a joué tous les matchs. 18 matchs, c'est une passe décisive en 18 matchs.
Elle était belle, par contre.
Elle était belle, mais bon. C'est la seule passe qu'il a fait en 18 matchs. On prend Price, c'est 15 titularisations, 3 montées au jeu, c'est 0 action décisive. 0. Kouavita, 13 titularisations, 5 montées au jeu, c'est un but, c'est le but à Charleroi qu'on a vu ici récemment. Donc, quand tu sais que tes 3 milieux ont 2 actions décisives en 18 journées de championnat, on a beaucoup parlé du problème offensif, on a parlé du problème défensif. Le gros problème, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est ce milieu de terrain. Il n'y a rien. Moi, je vais souvent au stade voir le Standard. Je vois ce milieu de terrain-là. Waouh, je me dis, franchement, honnêtement, il y a des joueurs, je suis sûr, tu veux même en Détroit, ils ont leur place meilleure que ça. Franchement, c'est affligeant. Je pense que depuis que je vois des matchs du Standard, j'ai jamais vu un milieu de terrain aussi faible. Franchement, c'est horrible. Et il n'y a aucun club du championnat belge qui a des stats aussi faibles pour un milieu de terrain. Donc, le cadeau de Noël, c'est pas un joueur, c'est l'ensemble, c'est un milieu de terrain qu'il faut...
Un milieu de terrain. Et toi, tu ne veux pas proposer d'Edric Boyata, par exemple?
Il y a quand même que moi qui suis mouillé avec, en citant un nom de joueur. Hein.
Voilà. Moi, j'ai
dit Dabak.
Après, ça va le rendre triste, ton émission de Noël. Non. Prends ton cadeau, déballe-le, bois ton chocolat chaud. Ça va bien se passer.
Non, le milieu de terrain, c'est vraiment...
T'as pas de nom à nous donner? Rien de spécifique? Moi, j'en ai pas donné non plus.
Un quadri,
par exemple, en tant que 10, exactement, voilà. Qui a un rôle vraiment pur offensif. Il faut un vrai 8 et le prolonger, c'est O'Neill. Il est capitaine et tout. Pour moi, il a pas les valeurs du club. Pour moi, non, je suis désolé, c'était une grosse erreur.
Ok, une grosse erreur, ben voilà. Maintenant, on va passer aux réjouissances pour vous. C'est votre moment cadeau, c'est l'instant cadeau. Et c'est justement nous qui allons vous gâter, tout simplement, à Noël, un petit peu en avance. Et oui, forcément, au moment où cette émission sort, il reste encore quelques jours avant d'aller sous le sapin pour aller déballer les cadeaux. Et donc, on vous offre tout simplement 2 tickets en business seat pour le match opposant le club de Bruges à la Juventus de Turin. Les boissons sont offertes, c'est pour nous, c'est pour le Football Time, ne vous inquiétez pas, ça fait plaisir. Il y aura avant le match et surtout pendant la mi-temps la possibilité de boire gratuitement à notre santé, c'est quand même super. Et surtout, c'est à gagner et ce sera dans les commentaires. Il faut répondre à une question très simple. Pour ce faire, le meilleur sera évidemment choisi par hasard, voilà, aléatoirement. La minute du premier but dans le prochain match que va jouer le club de Bruges, ce sera à l'Union Saint-Gilloise, mon cher Thomas. Union Saint-Gilloise, club de Bruges, la minute du premier but. Dites-nous ça, évidemment, dans les commentaires. Et peut-être que vous gagnerez l'immense chance d'aller voir le club de Bruges, peut-être qualifié déjà pour le deuxième tour dans ce match-là, entre le club et donc la Juventus de Turin de Thiago Motta. Il y aura en plus un international belge peut-être sur le terrain en la personne de Samuel Mangula. Bref, un super cadeau pour vous. Joyeux Noël, profitez de ça et surtout, tac, la réponse dans les commentaires. On attend vraiment la minute du premier but entre l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges. On passe tout de suite au Football Time Award. Évidemment, nos joueurs de la semaine que nous avons désignés et pour lesquels vous allez pouvoir donner un petit point de bonus sur X et sur Instagram. On démarre avec Xavier, qui a été ton joueur cette semaine.
Moi, c'est Simon Mignolet, tout simplement, parce que je pense que Bruges a été clairement supérieur par rapport à Genk, qui méritait tout à fait leur victoire. Mais il y a un moment vraiment décisif, c'est le penalty Genk, où Mignolet va le chercher. Je pense pas que c'est Toulouse qui l'a mal tiré, c'est vraiment Mignolet qui va le chercher. Et c'est là qu'on voit vraiment les grands gardiens, ils ont rien à faire sur le match, ils ont un arrêt à le faire, qui change vraiment le cours du match. Parce que je pense que si Genk le met au fond, je suis pas sûr que Bruges soit sa pose dans ce match. Et donc, que les gardiens qui ont 50 arrêts à faire sur le match, c'est facile, t'es chaud, faire plein d'arrêts, c'est facile. Mais quand t'as rien à faire sur le match et que t'as une action à faire, c'est là vraiment qu'on voit les grands gardiens et les gardiens capables de te faire gagner des matchs et de changer le cours d'un match. Et je pense que Mignolet l'a fait ce week-end, alors que ben voilà, il n'avait pas grand chose à faire. Je l'ai dit, il a juste eu cet arrêt-là, que Genk s'est pas forcément créé d'occasion. Et il a répondu présent et il a peut-être permis à Bruges de prendre 3 points importants dans la course au titre fin d'année.
La force tranquille, Simon Mignolet, on essaiera de le recevoir dans le Football Time cette semaine. Pour ma part, je vais en profiter parce qu'il vient du même club, tout simplement mon joueur de la semaine. J'en parle donc, Hans Van Aken. Hans Van Aken, tout simplement mon joueur de la semaine. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans cette émission un petit peu bilan, il est important de savoir donner un peu ses lauriers à des joueurs éminemment importants. Chaque fois qu'il faut faire la différence pour le club de Bruges, Hans Van Aken est toujours là. Le club peut toujours se reposer sur Hans Van Aken. Il fait une carrière extraordinaire. S'il avait voulu, il aurait pu faire une belle carrière à l'étranger. Il a décidé de donner toute son énergie pour le club jusqu'à la fin de sa carrière. C'est ça, sa destinée. Et c'est quand même bien parce que c'est rare aussi de voir ce type de joueur avec ce type de profil-là. Donc voilà, Hans Van Aken, je voulais tout simplement, en plus de ça, il a fait un excellent match ce week-end, mais c'est pas nécessairement lié à cette rencontre-là. C'est surtout pour, on va dire, un ballon d'or d'honneur. Voilà, on va lui donner un Football Time Award d'honneur aujourd'hui et surtout lui offrir eh bien ce petit point pour cette dernière émission de l'année parce qu'il le mérite amplement. Monsieur Hans Van Aken, merci pour ce que vous nous montrez chaque week-end et en Coupe d'Europe sur le terrain du club et avec le maillot du club de Bruges.
C'est tout de même un assist hein, aussi qui donne sur le beaucoup franc très intelligent pour Skovolsen qui les défenseurs de Genk l'ont complètement oublié. Mais je sais pas si vous avez vu les images. Ce n'est ni Skovolsen ni Van Aken qui est à l'origine de cette phase. C'est De Kuyper qui dit à Van Aken, donne la balle à Skovolsen parce qu'il voit qu'il est tout seul. Il donne à Skovolsen, il tire, but. Donc c'est une image vraiment à regarder. C'est sur le diffuseur de la Pro League. Allez regarder sur les réseaux, c'est vraiment très cool à voir.
Grande intelligence de jeu. Thomas, tu réserves souvent la surprise. C'est parti. Maintenant, on ne sait toujours pas, mais il va nous le révéler. C'est parti. Ton joueur de la semaine, c'est
Epolo.
Mathieu Epolo, évidemment. Le ouais. Fan club est de retour. Après le Sporting Boy, le fan club de Mathieu Epolo.
Bah oui, clairement. Donc, ça prouve bien que je ne suis pas un anti-standard. Au contraire. Donc, moi, j'ai choisi Epolo parce qu'il a fait un très grand match. Il a encore une fois permis au standard de prendre un point. Il fait 8 arrêts. et des arrêts très décisifs parce que, comme on l'a dit précédemment dans cette émission, le Bearscott devait remporter ce match parce qu'il méritait vraiment avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Mais encore une fois, c'est Polo qui sort une très belle prestation avec son 7e clean sheet de la saison.
Sa 7e clean sheet de la saison, c'est quand même pas mal. Effectivement, après voilà, c'est un gardien qui, à titre personnel, en termes de qualité individuelle, ne me convainc pas spécialement. Voilà, chacun son appréciation, mais il faut souligner le très bon match qu'il a fait contre le Bearscott. Il a d'ailleurs été grandement acclamé par les supporters. Xavier, mérité ou pas ce petit point donné par Thomas?
Oui, mérité, vraiment. Il a fait un match, il avait pas mal d'arrêts décisifs, même s'il a fait peur sur certaines sorties, mais il a des arrêts compliqués à faire. Il les a fait, et là, je pense, le Standard n'aurait peut-être pas pris un point s'il n'était pas là.
Allez, le joueur de la semaine maintenant, on s'en doute un petit peu, il a marqué le but en Coupe d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise, il a marqué un triplé cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté.
C'est ça, Ivanovic. Hein.
Franjo Ivanovic, voilà, il faut le dire avec de l'énergie. Franjo Ivanovic, quel attaquant, c'est ton joueur de la semaine.
Quel attaquant, un triplé, et ce que j'ai surtout aimé, c'est le troisième goal. Déjà, pas que le goal en lui-même, c'est la combinaison. Par exemple, avec David, ce qu'il arrive à faire, le petit contrôle orienté, et je trouve que ce duo-là, Ivanovic-David, c'est ce que vraiment l'Union a l'art de toujours faire, avec un profil plus petit, un profil plus physique, c'est ce qui a toujours fonctionné à l'Union, ce qui a encore fonctionné ce week-end. Et la finition qu'il nous met sur le troisième goal, elle est magnifique. C'est vraiment le petit lob avec finition, mais bien placé et tout. Il est là dans la surface, il est présent. C'est un renard de surface également. Et donc, jeune, hein, c'est 20 ou 21 ans. C'est très, très jeune, croate. Donc, Ivanovic, franchement, pour moi, il mérite un point ce week-end.
L'Union Saint-Gilloise qui a payé 4 millions d'euros. C'était le prix de sa clause libératoire. Mmh. Ça les vaut, Thomas.
Ah mais carrément, moi j'adore ce joueur, je l'avais déjà pris il y a quelques semaines, donc il va prendre 3 points et potentiellement 4 points avec nos chers followers. Donc non, c'est un attaquant très très intéressant et surtout je trouve très complémentaire avec David, parce qu'on parle de la prestation d'Ivanovic contre Westerlo, mais je trouve que celle de David est même plus importante, parce que à chaque but qu'il y a eu, c'est toujours lui qui était à l'origine du début de l'action. Je sais pas si vous vous souvenez de la passe qu'il donne à Ivanovic quand il fait le lob.
Le contrôle orienté,
c'est wow, c'est excellent.
Quentin, on a trouvé vraiment le duo qu'il faut. Là, maintenant, ça bouge plus.
On a déjà parlé,
David, hein. Ivanovic, c'est bon.
Pocconelli a beaucoup trop changé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission ici, c'est que l'instabilité, il changeait tout le temps. Moi, je regarde beaucoup les compositions, je fais les compositions et tout. Et l'Union changeait tout le temps. C'était impossible à prédire qui allait jouer offensivement. Et je trouve que quand il performe, c'est quand il arrive vraiment. Et c'est le profil qui a toujours fonctionné à l'Union. Quand on regarde, avant, on mettait des Boniface avec des Adingra. On mettait des Amour avec des Nilsson. T'as toujours ce profil plus petit, plus rapide. Et ce profil vraiment en physique. Et David, il en impose aussi. Donc,
Ok. Ivanovic, donc, qui a largement mérité, donc, son point. Quel joueur merveilleux. Tu vois, quand je l'avais mis en joueur de la semaine pour son petit pont absolument exceptionnel, qui permet derrière de faire le but extraordinaire qu'il réalise contre le club de Bruges. J'avais peut-être été un peu précurseur. Voilà, je le dis pour moi.
On l'a déjà dit
je le dis pour
points,
moi. Donc, on est d'accord. Il a déjà 3 points.
Je pense qu'il doit être dans le top du classement là. Faudra revoir les classements, mais d'ailleurs en parlant du classement, il va s'afficher ici. Je pense qu'il y a Rouf Orozowski, Rouf et Bertaccini et El Saafi sont au même niveau, donc on a pas mal de trucs. Et Polo qui va prendre un point aussi. Chéri qui arrive, donc ça commence à se resserrer là.
C'est quand même extrêmement concurrentiel. Oui. On ne sait pas encore qui gagnera le Football Time Award en fin de saison. C'est bien, ça veut dire qu'en 2024 et en 2025, donc ça va encore être encore plus intéressant et concurrentiel. Exact. Ce Football Time Award. Donc, on va terminer avec un petit teasing. Ton temps additionnel, de quoi va-t-il être question? Quels sont les joueurs qui vont performer ce week-end? Dans quelques mots, juste pour nous mettre l'eau à la bouche.
Alors, regardez bien la vidéo qui sortira demain sur le YouTube, et ce sera les joueurs qui performeront en Jupiler Pro League ce week-end, en tout cas qui auront une meilleure probabilité de performer, et il y a beaucoup d'outsiders.
Ok, beaucoup d'outsiders. Eh bien, il nous reste à vous remercier. Messieurs, merci beaucoup pour ce début de saison. Merci beaucoup, Xavier.
Avec plaisir, c'était vraiment un plaisir d'être là et de tourner toutes les semaines avec vous.
On prend beaucoup de plaisir, effectivement. On est reparti pour encore après 6 bons mois, en tout cas jusqu'à la fin de saison. Thomas, merci beaucoup.
Merci à toi.
Toujours l'antagoniste. On se revoit en 2025. Mon antagoniste préféré. L'homme avec qui j'adore ne pas être d'accord, c'est Thomas, bien sûr, depuis le début de saison.
Exactement. Et Quentin, je partage ça. Et surtout, de bonnes fêtes à tous. et profiter des proches. C'est voilà. Important.
Profiter des proches, profiter de des fêtes aussi pour tout simplement vous recentrer un peu sur les valeurs les plus importantes, ouais. La famille, bien évidemment, les amis, et surtout, beaucoup de chocolat chaud. Beaucoup de chocolat chaud. Allez, n'oubliez pas le jeu, les places, on vous l'a expliqué, à gagner la minute du premier but dans le match entre l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges pour remporter les Business Seats. Deux places à gagner pour le match en Ligue des Champions opposant le club de Bruges à la Juventus. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Quant à l'Adi, c'était le dernier épisode en 2024 du Football Time. Ciao, ciao!